Très heureux d'accueillir dans le cadre des extras du festival du premier roman de Chambéry, Julien Dufresne-Lamy et Laurent Binet, pour une table ronde consacrée à l'écriture sérielle, à la fois en littérature et à la télévision, au cinéma. Julien Dufresne-Lamy, votre œuvre est déjà très très prolifique. Vous avez écrit plusieurs romans, Dans ma tête, je m'appelle Alice, Deux cigarettes dans le noir, consacré à la chorégraphe Pina Bausch, Les Indifférents, autour d'un groupe de jeunes adolescents, un roman qui commence par un meurtre un peu à la manière de Big Little Lies, Joli joli monstre et Mon père, ma mère, mes tremblements de terre, qui est sorti pour la rentrée littéraire et qui interroge le monde de l'adolescence, de l'identité, de la transgénéricité, et qui fonctionne peut-être un peu comme un diptyque. Vous avez écrit aussi des romans de littérature jeunesse, Mauvais joueur, Boom, les étonnantes aventures du merveilleux minuscule Benjamin Berlin, Mastery et Darling. Darling, dont l'un des tomes est paru à la rentrée, donc automne, qui fonctionne en termes de saisonnalité aussi, et on le verra aussi de sérialité, on le voit déjà dès la couverture, avec les petites sortes de photos Insta. Laurent Binet, bonjour. Donc vous avez consacré votre œuvre aussi à la question l'interrogation sur la matière de l'histoire. C'est autant Julien Dufresne-Lamy, la question de l'identité, de la transgénéricité qui traverse un peu, et de l'adolescence, à la manière d'un Larry Clark ou d'un Gus Van Sant, je dirais, qui traverse un peu toute votre œuvre. Laurent Binet, donc vous avez écrit Force et faiblesse de nos muqueuses en 2000, La vie professionnelle de Laurent B. en 2004, HHHH en 2010, qui a reçu le prix Goncourt du premier roman, que mes élèves, d'ailleurs les élèves de la section cinéma, sont là, ont eu le plaisir d'adapter sous la forme d'un court-métrage. La septième fonction du langage en 2015, qui est une sorte de Fight Club, si on essaie de faire le lien de Fight Club, langagier autour de la question de la mort de Roland Barthes. Qu'est-ce que la gauche en 2017, qui est un essai, et Civilisation en 2019, qui est une uchronie qui imagine l'invasion de l'Europe par les Incas, donc une sorte d'enquête, de jeu stratégique et de révolution sociologique autour de cette question-là.
Tout à fait.
Julien Dufresne-Lamy, ma première question, il me semble que vous avez juste avant l'écriture de votre premier roman, réfléchi à la question des séries, puisque vous avez consacré un mémoire à la question des génériques de séries, vous avez tenu un blog sur les séries, et ensuite un site durant plusieurs années, donc vous êtes vraiment sériephile. Du coup, quel est votre paysage mental sériel? Et dans quelle mesure ce paysage mental sériel peut-il influencer votre univers et votre écriture romanesque?
C'est vrai que j'ai eu l'impression de m'éduquer beaucoup à l'univers sériel, et je ne devrais peut-être pas dire ça dans un festival littéraire, mais j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus éduqué par les séries adolescents que par les livres. Et je crois encore aujourd'hui, même si je suis un grand lecteur, je crois que je vis plus, je me sens peut-être plus vivant en regardant une série télé qu'en lisant un livre ou allant au cinéma, ce qui est parfois un peu un problème. Mon paysage sériel est très bigarré, très divers, mais c'est vrai que depuis l'écriture de ces mémoires que j'ai menées à l'ENS sur les génériques, l'intention d'en faire une thèse, et puis finalement j'ai pris un chemin de traverse et j'ai écrit un premier roman. C'était en fait, voilà, c'est à l'origine de mon écriture, cette influence là, un paysage finalement très d'être capable. J'ai l'impression que dans les séries télé, il y a ce champ des possibles. J'ai l'impression de toucher du doigt cette large possibilité de pouvoir évoquer n'importe quelle thématique. Alors j'ai l'impression de m'en éloigner peu à peu, de plus en plus, c'est-à-dire en écrivant de plus en plus de livres, d'être finalement, de cultiver, d'entretenir ma propre singularité, ma propre voix. Mais c'est vrai qu'on est forcément imprégné et influencé par par les séries qui sont partout, qui sont de plus en plus nombreuses. Je crois que l'année dernière, il y avait plus de 400 qui sont sorties. Il y a 10-15 ans, certains se proclamaient, dont moi d'ailleurs, sériephile, sérivore, des spécialistes un peu en série. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu spécialiste en série. Chacun a sa propre, finalement, a sa propre expertise, ses propres séries coup de cœur, puisqu'il y en a tellement que voilà, il y a moins ce côté bouche à oreille de il faut regarder celle-là, elle est merveilleuse, puisqu'en fait tout le monde a envie de découvrir un peu sa série un peu fétiche, qu'on a envie un peu de choyer un peu intimement. Après, mon paysage sériel, c'est vrai qu'il, pour citer que mes séries qui m'ont éduqué, pour reprendre ce terme-là, je pense à Six Feet Under d'abord, évidemment, puis une série un peu moins légitime qui s'appelle Gilmore Girls, qui est la série que je regardais quand j'étais adolescent et qui m'a vraiment donné envie d'écrire mon premier roman. C'est l'histoire d'une mère...
Dans ma tête, je m'appelle Alice.
Oui, dans ma tête, je m'appelle Alice. C'est l'histoire d'une mère bourgeoise qui quitte cet univers bourgeois et qui va élever sa fille de façon très bohème. Et c'est une série qui a fait l'objet d'un revival par Netflix puisqu'elle est devenue culte un peu après sa diffusion. Puis après j'ai adoré Rome, j'ai adoré The Wire, j'adorais Carnival, Big Love sur les Mormons, et j'étais fasciné par l'offre justement d'HBO de me dire qu'à chaque fois, moi qui étudiais les génériques, donc qui étudiais aussi leur, finalement cette courte séquence qui a valeur un peu métaphorique de l'univers ensuite qu'on découvre, de voir à la fois voilà, c'est ça, une maison funéraire, une expérience dans la Rome antique, une famille polygame dans la communauté mormone. J'étais assez bluffé par cette ambition à pouvoir tout évoquer. Donc c'est vrai que c'est resté en moi, même si j'ai l'impression, après 10 livres, de m'en éloigner de plus en plus et de cultiver autre chose. Heureusement.
Laurent Binet, dans votre roman Civilisation, donc c'est une uchronie, c'est-à-dire que vous travaillez la matière de l'histoire, vous imaginez que les Incas conquièrent l'Europe. Dans quelle mesure, en fait, l'uchronie pourrait avoir à faire avec cet aspect expérimental de la série ?
De toute façon, l'uchronie est une expérience, c'est une expérience de pensée, puisque c'est une spéculation. La locution clé de l'uchronie, c'est « et si », »,« what if ». C'est un genre qui est répertorié aux États-Unis, que moi-même, d'ailleurs, j'ai découvert enfant dans la lecture de mes comics. Alors, c'était amusant parce que quand je lisais mes histoires de super-héros, il y avait une série qui s'appelait, une déclinaison de cet univers de super-héros qui s'appelait « et si ». Le phénix n'était pas mort, et si Gwen Stacy, la copine de Peter Parker, n'était pas morte, ou et si tel ou tel événement, le surfeur d'argent avait intégré les quatre fantastiques, enfin j'en sais rien. Et donc ça c'était amusant parce que c'était une espèce de mise en abîme, c'est-à-dire que là on changeait l'histoire d'une fiction. C'était pas bon. Donc c'était ma première approche de l'uchronie, et ça m'a toujours fasciné cette idée. Donc indépendamment de cette histoire de comics, cette idée qui renvoyait à un fait inamovible, qui est que le passé est passé et qu'on peut pas le changer. Mais on peut pas le changer, mais on peut imaginer. On peut imaginer que et si ceci, alors comment ça se serait passé si cela.
Ça renvoie à l'univers de la série Marvel.
Oui. Voilà. Et donc, rappelez-moi votre question. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Là, je me suis embrouillé.
Dans quelle mesure,
comics.
En fait, l'uchronie
oui.
A à voir avec l'univers de la série, son aspect expérimental. Alors voilà.
Donc, en tout cas, ce livre-là. Enfin, je pense que l'uchronie est un jeu. L'uchronie est un jeu. Ce livre-là a été conçu comme un jeu de stratégie.
Le titre, Civilisation.
C'est pour ça que j'ai rajouté le Z au titre comme une référence à un jeu vidéo assez célèbre, donc qui s'appelle Civilisation, auquel j'ai joué quand j'étais plus jeune. Mais en tout cas, si je devais faire un lien entre l'uchronie en général et celle-ci en particulier et l'univers des séries, je dirais que le principe même de changer le passé, c'est-à-dire que voilà, on change un événement dans le passé, puis ensuite on tire le fil et on essaie de déduire, de spéculer sur tous les bouleversements que va engendrer ce qu'on appelle le point de bascule, c'est-à-dire l'élément de modificateur. Et alors, ce qui est propice à la série, c'est qu'en fait, il n'y a aucune raison qu'on s'arrête à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que là, donc moi, j'ai changé un épisode à l'époque des Vikings autour de l'an 1000. J'ai imaginé que des Vikings qui faisaient l'aller-retour au Canada, bon, bah, finalement, il y en a quelques-uns qui restaient, qui descendaient la côte américaine et qui diffusaient aux Indiens, avec 500 ans d'avance, tout ce qui allait leur manquer quand Christophe Colomb allait débarquer. Et donc ensuite, je continue l'histoire. Donc ça commence en l'an 1000, ensuite Christophe Colomb, fin du 15e siècle, ensuite 16e siècle, etc. Et je m'arrête autour de 1500, de la bataille de Lépante en 1571. Mais en fait, rien m'aurait empêché de continuer. C'est-à-dire que, enfin, et donc en fait, si on raisonne en termes de saison, j'aurais pu faire voilà, la saison suivante au 17e, la saison suivante au 18e. Et d'ailleurs, je me souviens que dans le jeu Civilization, ce qui était drôle, c'est qu'on commençait en gros à la préhistoire et on arrivait jusqu'à nos jours où on commençait à inventer des vaisseaux spatiaux. Mais en fait, on pouvait dépasser. Moi, je jouais à ça à la fin des années 90. On pouvait aller jusqu'en 2100, je crois. Et c'est vrai que donc en fait on peut continuer indéfiniment et donc ça bon bah évidemment c'est le principe de la série quoi. D'ailleurs tu parlais de Rome, je crois savoir que la série Rome qui a eu deux saisons je crois, c'était en effet une série absolument splendide, elle s'est arrêtée parce que Cinecittà avait brûlé je crois, ils avaient voilà les décors avaient brûlé. Mais en fait la saison 1 c'est l'histoire de Centurion à l'époque de Jules César. Et jusqu'à l'assassinat de Jules César. Et la saison 2, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est Marc-Antoine contre Octave. Mais donc, du coup, en fait, ils auraient pu continuer, ils auraient pu faire Suétone, en fait. Ils auraient pu faire les 12 Césars, 12 saisons, 12 Césars, 12 saisons. Donc, en fait, oui, il y a un lien organique, je pense, entre le principe de la série et le principe de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'arrête jamais.
Julien Dufresne-Amy, si on s'amuse à faire, parce qu'on parle de jeu, une traversée de votre œuvre en essayant de faire des liens avec des séries. Est-ce qu'il y a des séries qui vous ont habité quand vous avez écrit, par exemple, dans ma tête, je m'appelle Alice, ou mon père, ma mère, mes tremblements de terre, ou encore Joli Joli Monstre?
Alors ça peut être effectivement une série qui nous influence, ça peut être une musique, ça peut être un film. Et je pense précisément ça peut être aussi certaines scènes ou un épisode.
Lesquelles ?
Alors j'ai un exemple que j'ai. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mauvais joueur, qui est un livre pour adolescents, qui est mon premier pour adolescents. Et dans ce livre-là, j'ai. Je me suis inspiré, il faut parler d'inspiration parce que sinon ce serait du plagiat. Je me suis inspiré d'une scène que j'avais trouvée absolument dingue dans Breaking Bad, où cette série sur ce père de famille atteint d'un cancer qui, pour prévoir un peu ça, mettre sa famille un peu de côté une fois que, enfin, à l'abri du besoin, lorsqu'il mourra, va devenir dealer. Enfin, pas dealer, mais
il fabrique de la méthamphétamine. Il devient quand même
chimiste, en tout cas. Voilà, ouais. Pour le. Il y a cette scène très forte où sa femme, une fois qu'elle a découvert le poteau rose, s'enfonce dans la piscine comme si elle allait se noyer. Je trouvais cette scène vraiment tellement voilà très. Très fort, très évocatrice, et je m'en suis inspiré pour créer une autre scène, pour parler de dépression dans une baignoire. Enfin, voilà. Après, voilà, c'est toujours des anecdotes et des moments un peu très, voilà, très précis. Il n'y a jamais vraiment une série dans ça. Après, ce qui peut être intéressant parfois, c'est aussi de s'intéresser à la construction d'une série en termes d'analepse, de prolepse, de retour en arrière, de bond dans le futur, comme Big Little Lies que vous citiez tout à l'heure.
Pour les indifférents.
Pour les indifférents, qui effectivement construit un peu comme une série télé, ou en tout cas comme un polar, effectivement, avec le premier chapitre, un jeune d'une bande meurt sur la plage un matin. On ne sait pas qui meurt dans cette bande, on ne sait qu'à la dernière page. Et à la dernière page, on sait pourquoi tous les autres sont responsables de la mort de cette personne. Et le livre est effectivement construit en passé, présent, permanent. Et Big Little Lies, par exemple, ou d'autres, hein, évidemment, qui sont construites autour d'un mystère, d'un thriller, construit ce schéma-là de, dans Big Little Lies, effectivement, qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps, que peut-être vous avez vu sur OCS, ou sur, je crois qu'elle est passée sur TF1 aussi il n'y a pas très longtemps. Où c'est effectivement, j'ai oublié tout le mystère de la série, mais c'est quoi ? C'est une femme qui... Rappelez-moi, qui est-ce qui... C'est une femme qui... Non, les femmes
qui,
sont...
Qui pousse.
Mais ça, on ne le sait qu'à la fin.
Oui.
Ouais, mais il y a une mort, et on ne sait pas qui, effectivement, est responsable. Et on voit, finalement, une trajectoire un peu linéaire avec le quotidien de ces femmes très bourgeoises. Et en même temps, c'est enchevêtré de passages où elles sont au commissariat, où elles doivent s'expliquer, elles doivent se justifier. Et finalement, les deux chemins se rejoignent à la fin lorsqu'on sait ce qui se passe.
Il y a un côté shortcuts d'Altman, parce qu'il y a un regard très sociologique, très féministe, qu'on retrouve aussi dans votre univers romanesque aussi.
Le regard féministe
Et sociologique.
Sociologique. Je pense qu'en écrivant des histoires, on est obligé forcément de s'imprégner du rapport à l'autre et de l'altérité. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce qui me donne toujours envie d'écrire, de parler effectivement du corps, de l'apprentissage, de qui on est dans un groupe, dans une famille, à l'école ou dans un gouvernement, dans une religion. Je trouve que c'est important de questionner toujours cette question d'identité et aussi de ce... Je crois aujourd'hui, notamment dans mes derniers livres, ce qui, moi, m'importe, et je le retrouve beaucoup plus facilement dans les séries qu'en littérature, cette question, justement, de la diversité, de montrer le monde tel qu'il est, avec des personnes transgenres, avec des personnes...
Vous pensez à quelle série, sur la question de la transgénéricité, par exemple ?
Je pense à Transparente, sur Amazon, qui est un chef-d'œuvre, et qui a été créé par la scénariste en chef de Six Feet Under, qui s'appelle Jill Soloway. Et Jill Soloway a écrit cette histoire, a raconté cette histoire d'un homme de 70 ans qui n'est pas un homme, qui est une femme et qui enfin le dit au monde. Elle s'est inspirée de sa propre histoire puisque son père est une femme. Elle a fait son coming out il y a quelques années. Et pour écrire cette série, elle a eu envie, je trouve ça très, très audacieux et très beau, surtout à Hollywood où c'est très compliqué, elle a eu envie de s'entourer uniquement de femmes ou de personnes transgenres capables en fait, de témoigner au quotidien de cette diversité-là. Donc effectivement, je trouve que dans une représentation très diverse du monde, on l'a beaucoup plus dans les séries qu'en littérature. Là, quand on regarde la rentrée littéraire sur les 500 livres, il n'y a pas beaucoup de problématiques, soit LGBT, soit sur la grossophobie, soit sur... Et je pense que c'est important aussi de montrer le monde tel qu'il est, tel qu'il est en train de devenir, que ce n'est pas des lubies, c'est la vie des gens. Et c'est vrai que dans mes livres, ça m'importe beaucoup l'idée de comment on construit son identité, mais comment aussi on la déconstruit. C'est important, je pense, dans la vie de tous, à un moment de se dire je représente ça et je sais pas forcément qui je suis, et je suis ma propre création, je suis ma propre forme, et c'est voilà, bref.
Le voguing, la transgénéricité, on croise ces thématiques dans Joli Joli Monstre et dans Mon père, ma mère, mes tremblements de terre. Il y a aussi la question de l'identité numérique, l'identité évolutive dans Darling.
Alors Darling, c'est vrai que c'est un projet donc de quatre livres, quatre tomes qui parlent d'une bande d'adolescents sur une année, effectivement découpée en quatre saisons, pour rebondir sur ce terme aujourd'hui qui est vraiment très associé aux séries, qui aussi qui découpe aussi notre temps.
Du coup, tu as pris le mot saison dans son sens littéral.
Voilà, dans son sens automne. Exactement.
C'est malin.
Et ça suit une rentrée à l'automne, une rentrée scolaire, et ça se termine à l'été suivant.
C'est dans le même espace ?
C'est dans le même espace, en tout cas c'est dans la
d'un
même...
lycée ?
Alors on ne dit jamais que c'est un lycée ou un collège pour s'exclure aucun âge, mais effectivement ça se passe à Bordeaux, dans un bahut à Bordeaux, de jeunes qui ont 13, 15, 17 ans, c'est au lecteur de choisir, puisque les problématiques sont plutôt très modernes, très brutales. Le langage est aussi très, très contemporain. On avait envie de questionner, là, dans cette série-là, surtout les problématiques des adolescents liées toujours aux réseaux sociaux. Et au fait de... Alors, on est évidemment tous dépendants de cette virtualité, des réseaux sociaux qui conditionnent nos envies, nos pensées. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus prégnant chez les adolescents, puisque eux vivent une pression permanente, une posture sociale permanente, puisqu'avec Snapchat, Instagram, finalement les rumeurs, les candidatons, les histoires du collège, du lycée ne s'arrêtent pas comme ma génération d'avant, à la grille du lycée, quand la sonnerie retentit, à 17h, les histoires sont finies, on retourne dans sa famille. Là, en fait, les ados vivent aujourd'hui de façon permanente, en fait, avec ces questions de réputation, de représentation de soi, de mise en scène, et donc sont aujourd'hui beaucoup plus poussés à fantasmer un peu leur existence, à choisir. Là, j'ai regardé un documentaire hier qui parlait de les chirurgiens esthétiques parlaient de dysmorphie Snapchat, où il y avait beaucoup de jeunes qui, à cause des filtres de Snapchat, des filtres qui embellissent le physique, veulent en fait donc faire de la chirurgie esthétique, et donc et créer une forme de dysmorphie. Voilà, donc c'est effectivement des problématiques aujourd'hui très actuelles et très importantes, ce pouvoir de la virtualité sur le réel qui est en train de prendre le dessus. Et là, je me suis aussi beaucoup inspiré de ce que font les séries dans ce feuilleton-là, puisque chaque tome finalement suit trois personnages principaux qui ne le sont pas dans les tomes suivants. Un peu finalement comme si chaque tome était une anthologie, était indépendante en fait, et pouvait se lire sans forcément lire les saisons suivantes ou les saisons précédentes. Il y a beaucoup de séries qui fonctionnent aujourd'hui comme ça, American Horror Story de Ryan Murphy ou plein d'autres, True Detective dont on parlait tout à l'heure, ce qui permet je pense aujourd'hui de rassurer un peu les spectateurs ou les lecteurs en se disant je ne me sens pas pris en otage, en me disant là j'ai envie de regarder cette série mais il y a 120 épisodes, il y a 5 saisons, je vais y passer 6 mois, je ne vais rien faire d'autre, en se disant bon, je regarde une saison si elle me plaît, je regarde une autre parce que finalement c'est la même mécanique, c'est le même bouillon mais avec des histoires différentes, avec d'autres personnages, et ça c'est une autre forme de sérialité aujourd'hui.
Vous avez deux univers romanesques très différents, mais là, pour le coup, on peut établir un pont entre vos deux univers, c'est le jeu vidéo. Le lien, alors, dans Darling, il y a un lien entre l'écriture SMS, l'écriture et la pensée Insta, et votre écriture se fait l'écho de la pensée d'écriture Insta et de l'écriture liée aux réseaux sociaux, et aussi du jeu vidéo, quand il y a trois possibles. Sur la question des choix, donc c'est des carrefours narratifs possibles. Et dans Civilization, c'est le titre d'un jeu vidéo, et c'est aussi, ça fait écho à un texte de Roland Barthes, SZ. Et donc il y a vraiment un jeu sur la structure. Donc ça joue aussi.
Ouais, mais alors du coup, oui, le jeu Civilization a peu à voir avec la question des SMS et d'Instagram, donc
plutôt bon, du jeu vidéo, oui.
Ouais. Donc c'est-à-dire que, enfin, si votre marque vise à souligner que on est tous les deux très influencés par ce qu'on appelle la sous-culture, la réponse est oui. Mais les questions que soulève Julien sont tout à fait passionnantes sur sur l'Instagramisation du monde, mais c'est vrai que c'était quand même moins mon angle dans Civilization.
Alors la structure est vraiment étonnante et intéressante. Il y a quatre parties d'inégale longueur et de styles très très différents. Donc il y en a une qui est plutôt une saga islandaise. Ensuite, on a un journal, donc un écrit fragmentaire, le journal de Christophe Colomb, la conquête donc de l'Espagne, et on finit par un pastiche de Don Quichotte. Donc vous m'avez dit que vous étiez dans un projet d'adaptation ce roman.
Absolument, oui. Donc j'ai signé avec des producteurs franco-américains pour l'adaptation en série de Civilization. Et donc c'est très intéressant parce que c'est très compliqué. Et notamment, l'une des premières complications à laquelle j'ai été confronté est cette histoire de découpage. Donc en effet, dans mon livre, il y a d'abord cette partie Viking, ensuite la partie Christophe Colomb, ensuite la partie les Incas en Europe, et enfin le 25 ans après l'invasion de l'Europe dans Atahualpa, dans mon livre, débarque autour de 1530. Et donc, 40 ans plus tard, c'est Cervantes qui évolue dans une Europe dominée par les Incas et les Aztèques. Et donc, tout ça à mettre en série. Bon, alors, c'est compliqué en soi, mais c'est compliqué pour une raison spécifique au concept même de la série, c'est-à-dire que dans une série télévisée, y a un enjeu primordial, c'est la continuité. Il faut que il faut qu'on ait des personnages récurrents. Enfin, il faut que ça se suive, quoi. Tout simplement. Ça a l'air idiot, ça a l'air simple ce que je dis, mais en fait, si vous réfléchissez bien, par exemple, il y a des séries qui ont essayé de rompre cette continuité et qui n'y sont pas arrivés. Par exemple, True Detective, dont on parlait tout à l'heure, ils changent les acteurs. Bon, voilà, première saison, il y a une enquête policière, l'enquête est résolue. Deuxième saison, une autre enquête avec d'autres acteurs. Et comme par hasard, ça n'a pas marché. Indépendamment du fait que je pense qu'en effet, c'était moins bon. Mais il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du suivi dans une série. Si vous changez, ben, c'est plus une série. Alors vous allez me dire, vous pouvez me dire Black Mirror, mais justement, Black Mirror, c'est, à mon avis, le terme de série est un peu abusif. C'est un épisode, c'est-à-dire c'est quand même des unités autonomes. C'est juste le concept, ok, on va vous raconter une histoire dystopique horrible autour de la modernité, mais c'est pas exactement la série telle qu'on l'a. Les grandes séries, c'est-à-dire ce qu'on veut dans Game of Thrones, on veut savoir si le nain va s'en sortir ou pas, et ça sur 7-8 saisons, on nous tient en haleine là-dessus. Si on passe totalement à autre chose, c'est compliqué, et ça, à mon avis, ça rompt le pacte d'une certaine manière de la série. Donc du coup, c'est un problème pour moi, parce que si je dois vendre ma série tirée de Civilization, en gros, bon, le pitch il tient en une ligne, c'est les Incas envahissent l'Europe au XVIe siècle. Simplement, si on suit le bouquin, qu'est-ce qui se passe? Les deux premiers épisodes, ou peut-être disons un ou deux, ça va être les Vikings. Ensuite, les trois épisodes suivants, ça va être Christophe Colomb qui débarque à Cuba. Bon, et là, commercialement, c'est compliqué. Au niveau, on nous vend des Incas en Europe, et au bout de 5 épisodes, il n'y a toujours pas d'Incas. Donc en fait, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un montage alterné, c'est-à-dire que dans les premiers épisodes, alors évidemment la solution la plus simple que mes producteurs n'ont pas manqué de me suggérer, c'est de faire disparaître les Vikings, comme ça plus de Vikings, plus de problèmes. Bon, c'est une possibilité en effet, mais alors outre le fait que bon moi ça m'embête un peu parce que voilà, c'est-à-dire c'est quand même une adaptation de mon livre, dans mon livre il y a des Vikings, j'aimerais bien qu'on retrouve les Vikings. Bon, bref, mais c'est quand même embêtant parce que par rapport au concept même d'uchronie, d'histoire contrefactuelle, on change d'histoire, ce qui est important, enfin ce qui est décisif dans une uchronie, c'est ce qu'on appelle, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le point de bascule. C'est-à-dire que, ok, je vais vous raconter une histoire alternative, on va refaire l'histoire, mais il faut un élément déclencheur. L'élément déclencheur dans mon histoire, c'est les Vikings qui apportent le cheval, le fer et les anticorps aux Indiens 500 ans avant Christophe Colomb. Donc, si je vous balance juste dans un univers où les Indiens dominent le monde, c'est possible, mais on perd quelque chose. Ce n'est pas l'esprit de l'Uchronie. Donc, il faut garder les Vikings. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? On fait un montage alterné. C'est-à-dire qu'on ouvre première scène. Alors là, je suis en train de réfléchir. Là, je vous dévoile c'est un brouillon d'épisodes, mais l'idée, c'est par exemple, scène d'ouverture, Christophe Colomb qui débarque à Cuba, bon, exactement dans une ambiance exactement fidèle à la réalité historique, enfin telle qu'on peut y accéder. Et puis donc, donc ça, c'est le pré-générique. Vous voyez, ce serait le pré-générique. 5 minutes de Christophe Colomb dans la jungle à Cuba. Et puis soudain, il arrive sur une clairière et qu'est-ce qu'il voit? Une bande d'Indiens à cheval, en armure, bien équipés, très différents des Taïnos qu'il a rencontrés à Cuba et à Haïti, qui étaient tout nus et sans défense, quoi. Voilà. Et donc là, hop, on balance le générique et là, tout de suite, Le projet est posé, si vous voulez. Ce que les scénaristes appellent la promesse. La promesse, elle est posée. Ah bah tiens, ok, 16e siècle, et apparemment, ça ne va pas se passer comme on sait que ça se passe. Ensuite, deuxième scène, scène de Viking. Troisième scène, scène d'Inca. On revient ensuite à Colomb, Viking, Inca, etc., etc. Pendant, alors le problème étant que chaque partie fait pas la même taille dans mon livre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va falloir abandonner les Vikings. Au bout d'un moment, il va falloir abandonner Colomb. Et à un moment, les Incas prendront toute la place. Et éventuellement, donc là, on met de côté la dernière partie avec Cervantes. Éventuellement, là, si la série était un carton intersidéral type Game of Thrones, on pourrait tenter le coup pour une saison 4 ou 5, où là, bon, OK, on en a fini avec les Incas, et on balance la quatrième partie avec Cervantes dans l'Europe des Incas, où là, on renouvelle, c'est quoi ? C'est 25 ans après, il y a un saut, donc on renouvelle le personnel, le romanesque, et donc en l'occurrence, les acteurs. Il y a des nouveaux acteurs qui arrivent, Cervantes arrive, Montaigne arrive, et puis quelques vieux Incas, où on les aura vieillis, où on aura changé les acteurs, ont 25 ans, 30 ans de plus et sont encore là pour faire le lien. Voilà. Mais ça, bon, c'est pas gagné. Ça, ce serait déjà... Enfin, voilà, c'est possible, mais c'est plus rare et plus risqué dans une série.
Julien Dufresne-Hamy, vous êtes aussi dans un projet d'adaptation ?
Oui, donc je suis en train effectivement de développer aussi Darling, cette série pour ados en série télé. Avec des producteurs également. J'ai un précédent livre, Les Indifférents, dont je parlais sur la mort d'un adolescent sur la plage, qui a été acheté aussi par une boîte de production, et un autre qui le sera en podcast audio. Pour rebondir sur ce que disait Laurent, en fait, sur l'idée de, quand tu parlais de montage alterné, ça m'a fait penser à Game of Thrones aussi, avec le pilote où en fait les marcheurs apparaissent à la première scène, on les voit arriver. Les White Walkers, et finalement disparaissent quasiment de l'intégralité de la saison 1 parce qu'ils sont finalement ce qui doit arriver plus tard, mais ils ne peuvent pas arriver que plus tard, ils doivent être présents dans
comme des fantômes, voilà, comme une menace fantôme. Ouais, ouais. Ouais.
Est-ce que tu disais sur ce qui est une série, en fait j'ai l'impression que, et je suis d'accord avec toi, parce que c'est aussi pour moi ce qui est vraiment une série, c'est le feuilleton, c'est l'écriture feuilletonnante, c'est le fait de retrouver les mêmes personnages, les mêmes intrigues. Et pour autant, qui ai un peu étudié la série, j'avais rencontré pas mal de gens qui aimaient l'inverse de ces séries feuilletonnantes, ce qu'on appelle les formulas chauds.
Les quoi ?
Les formulas chauds. Les formulas chauds, ce sont comme les séries policières ou les séries juridiques, où en fait chaque épisode est indépendant. Il y a une intrigue, un procès ou un meurtre, et il est résolu à la fin de l'épisode. On a les mêmes personnages.
On a les mêmes personnages.
Mais finalement, il n'y a pas tellement de. Alors aujourd'hui, ils développent beaucoup plus des arcs de quelques épisodes où il y a des histoires entre les personnages, mais finalement, chaque épisode peut se regarder comme ça.
Oui, c'est vrai. Mais même, par exemple, tu vois, même les experts Manhattan, typiquement, bon, un épisode, une enquête. Voilà. Il y a quand même, tu vois, tu suis la vie privée des persos, les collègues qui sortent ensemble, s'embrouillent, qui assurent une espèce de liant d'un épisode à l'autre. Ouais. Mais non, mais c'est vrai, c'est une formule aussi, un cas. Mais bon, les personnages sont les mêmes.
Les personnages sont les mêmes. Ouais, ouais. Mais je pense que la tendance aujourd'hui de la série deviendra celle de l'anthologie et de chaque saison est finalement indépendante par rapport aux précédentes et aux suivantes, avec un cast différent, puisque ça oblige pas des actrices comme celle qui joue Meredith Grey d'être 17 ans dans la même série toute sa vie C'est Hélène Pompeo dans Grey's Anatomy, c'est une série qui existe depuis 17 ans et qui marche encore aujourd'hui. Et puis il y a des séries formidables qui, quand même, à Trop Détective, s'est plantée avec la saison 2. Mais Fargo, par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Fargo, je crois que sa saison 2...
Inspiré du film Fargo des frères Cohen, mais décliné en série.
La saison 2 est mieux que la première, je crois.
C'est vrai. Et le liant, là, ne reposant que sur l'ambiance, en fait. L'Amérique profonde, sous la neige.
Les
petits bleds sous la neige. C'est vrai.
Si on en revient à la structure de civilisation, les parties, quand même, se répondent entre elles. Elles ne sont pas indépendantes. Il y a des circulations souterraines entre les différents.
Ah, bah, bien sûr. Oui. Non, si j'ai pas fait. C'est pas quatre. C'est pas quatre grosses nouvelles. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire, il y a un lien structure. Enfin, comment dire. Il y a le. Il y a des ponts forcément, puisque l'idée c'est que on part d'un point A, on arrive à un point D en l'occurrence, mais que chaque le principe, enfin, qui a guidé, enfin, je pense que c'est le principe de l'Uchronie, en fait, c'est la déduction logique. Donc, si les Vikings font ça, alors Christophe Colomb, ça va se passer comme ça. Et alors, si Christophe Colomb, ça se passe comme ça, alors logiquement, les Incas, etc., etc. Et ah oui, alors donc, et notamment l'un des, comment dire, l'un des nœuds centraux. Alors ce que en terminologie de série, on appelle l'arène, en fait. L'arène, c'est en gros, ça va être, je sais pas, King's Landing, quoi. C'est-à-dire un endroit où on passe et on repasse, si vous voulez, un point central, quoi. Et là, par exemple, le point central de civilisation, c'est Cuba. Les Vikings, ils arrivent au Canada, ensuite ils descendent, ils arrivent à Cuba, ils continuent. Christophe Colomb, il arrive à Cuba, comme dans la réalité, et puis lui, il ne continue pas. Les Incas, ensuite, troisième partie, ils remontent, et puis à un moment, ils sont acculés, il y a une guerre civile, tout ça, ils n'ont pas le choix, ils prennent la mer, hop, ils arrivent à Cuba. Et donc Cuba, et donc à chaque fois, mes protagonistes arrivent à Cuba, ils voient les traces du passage de la partie précédente. Et donc, du coup, c'est pour ça que, par exemple, un scénariste avec lequel je travaille me dit, à la fin de l'épisode 1, l'enjeu vraiment, c'est que les Incas arrivent quand même assez vite, quoi. Et donc, à la fin de l'épisode 1, ce serait tout le monde à Cuba. Donc, mon montage alterné, vous voyez, Viking, Christophe Colomb, etc. Fin de l'épisode 1, tout le monde arrive à Cuba. Et donc là, comme ça, le lecteur comprend, dans ce qui va lui apparaître comme un truc un peu compliqué et hétérogène, comprend, voit se former le lien organique entre les trois parties. Et donc, c'est très compliqué parce que Cuba, ouais, OK, mais alors, avec mes Incas, il se passe quand même pas mal de trucs avant qu'ils arrivent à Christophe Colomb, lui, il arrive à Cuba. Les Vikings, il leur arrive des trucs. Les Incas, encore plus de trucs. Et donc, du coup, ça nécessite une gestion de la temporalité, en fait, qui est très compliquée. Et concrètement, ça nécessite aussi d'aller plus vite. Alors, le Christophe Colomb, c'est super. Hein, je peux le faire patienter autant qu'on veut. Mais les autres, il faut qu'ils se dépêchent. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'ils se dépêchent. Ça veut dire qu'il faut sucrer des épisodes. Et ça, évidemment, ça me heurte. Ça
et lesquels vous avez sucrés?
Non, on n'en est pas là. Là, vraiment, je vous parle, c'est quasiment de la réflexion à haute voix. Hein, mais c'est-à-dire, on n'en est pas là. On ne sait pas encore lesquels on va sucrer. Mais le scénariste avec lequel je travaille, m'encourage. Moi, je dis non. Et puis là, il y a les semaines passent, les mois passent, et en fait, là, je vais bientôt l'appeler. Je vais dire OK, t'avais raison. On va couper le début des en l'occurrence la guerre civile des Incas. Moi, j'avais en tête des belles batailles. J'avais envie de calquer une bataille sur la bataille de Waterloo. J'étais en train de relire des trucs sur mélanger Austerlitz-Waterloo, enfin faire des trucs absolument géniaux, mais qui malheureusement seront pas bons, c'est pas grave, hein, c'est-à-dire à un moment il faut choisir entre se faire plaisir et puis la nécessité organique du récit. Et là, dans la logique sérielle, la nécessité organique du récit, c'est que tout le monde se retrouve à Cuba à la fin de l'épisode 1. Alors, je peux éventuellement négocier le fait que l'épisode 1 soit un épisode double, hein, c'est-à-dire ça approche des 2 heures, ça se fait des fois, mais voilà. Et donc ça doit primer sur tout le reste et sur même mon envie de voir une belle bataille à Cusco, au Pérou, devant la capitale des Incas.
La question s'adresse à vous deux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement et précisément en quoi consiste le travail d'adaptation d'un roman en série en France et aux États-Unis, puisqu'il y a une double logique, une coproduction franco-américaine pour Civilisation, production française pour vous?
Je pense que c'est d'abord accepter le fait d'être un peu dépossédé de son travail, de son matériau d'origine, de se dire que qu'un livre ne peut pas en l'état devenir une série, puisqu'il y a des enjeux, des enjeux visuels, des enjeux scénaristiques, de continuité, de cohérence. C'est, je pense, accepter l'idée que notre histoire soit déplacée un peu ailleurs, dans un territoire qu'on n'avait pas forcément identifié, nous, en écrivant notre histoire. je pense que la littérature, elle permet plus de choses et on peut se permettre effectivement des raccourcis, des identifications, des gimmicks avec l'idée de ces lieux qu'on retrouve. Voilà. Avec la série, c'est effectivement plus compliqué puisqu'il faut aussi prendre un peu plus, je pense, le spectateur par la main, jamais le laisser de côté, alors que la littérature, pourquoi on tourne les pages, c'est parce qu'on est un peu aussi parfois de côté et qu'on a envie de toujours être dans l'intrigue, suivre un personnage ou un nœud ou un dénouement. Généralement, les premiers producteurs qui ont acheté donc Les Indifférents, donc l'histoire sur la bande d'adolescents dont l'un meurt.
Et qui produit Les Indifférents ?
Ça s'appelle VMA Productions, c'est ceux qui ont fait Les Bracelets Rouges sur TF1 qui a beaucoup marché. Je crois qu'ils en sont déjà à 3 saisons et c'est un record. C'est un remake de série américaine qui a été aussi un remake d'une série mexicaine, je crois, qui suit un hôpital d'enfants malades. Pour ce projet-là, ils avaient vu effectivement que j'étais assez connaisseur des séries, puisque dans le livre aussi est construit assez habilement, notamment dans ce qu'on disait sur le passé présent, mais aussi les dialogues. Je pense que peut-être que l'univers série m'a aussi permis d'avoir des dialogues peut-être un peu plus vifs, un peu moins littéraires.
Pour Darling aussi.
Donc ils m'ont proposé tout de suite d'être scénariste sur le projet de développer avec eux la Bible.
Qu'est-ce que c'est qu'une Bible ?
Une Bible, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est une Bible ? C'est comme la Bible, c'est aussi important. Non, je pense que c'est les fondations de la série, c'est finalement son cahier des charges.
Ouais. Voilà. Le guide, quoi.
Le grand guide.
Ouais. Qu'est-ce qui doit y figurer ? Parce qu'il y a certains élèves qui sont en section cinéma dans la salle qui font des scénarios de court-métrage. Mmh. Quelle est la différence, par exemple, entre une Bible et un scénario ?
La Bible, c'est tout le projet avec l'exposition du concept. Là, c'est comme c'est-à-dire c'est ce que vous donnez au scénariste en fait. Voilà. Et le scénariste dit voilà là, tous les principes de la série sont dans ce. C'est pour ça que ça s'appelle une Bible. Hein, voilà. C'est vraiment le guide, le manuel. C'est le manuel. Voilà. C'est le manuel de référence où on va présenter les personnages, on va expliquer la démarche, les enjeux, ouais, c'est ça, les enjeux. Hein. De quoi ça parle, pourquoi, qu'est-ce qu'on essaie de soulever, qui est-ce qu'on essaie de toucher, comment, etc., etc. À quel, de quoi on s'inspire. C'est la présentation du projet à partir de laquelle et dans laquelle parfois il y a le script du premier épisode du pilote. Hein, et ça peut faire entre enfin, de ce que j'ai vu, ça peut faire vraiment entre 10 et 40 pages. C'est de taille très, très variable. Donc, si c'est vraiment l'avant-projet, on parlera de pré-Bible éventuellement. C'est le manuel. Quoi.
Et de quoi vous vous êtes inspiré pour écrire la Bible de civilisation ? Vous êtes inspiré d'autres Bibles ou aussi
ouais,
d'autres
ouais, j'ai eu la chance de pouvoir lire la Bible de... C'est des documents assez, enfin c'est pas, on les trouve pas sur Internet quoi.
On les trouve donc, où et comment?
Ça circule quoi, ça circule. Enfin, c'est-à-dire il faut là, c'est mes producteurs ont réussi à se procurer la Bible de Game of Thrones. J'ai feuilleté la Bible de Fargo aussi, de True Detective, de quelques séries américaines de ce type. Et donc c'est très intéressant parce que donc en gros tous ils font ce que je vous dis en gros, mais pas forcément la même approche. Ah oui, par exemple Homeland, j'ai vu la Bible de Homeland, et alors donc eux ils avaient un peu scénarisé leur Bible, c'est-à-dire que c'était sous forme de questions. Alors c'est en gros c'était bon, alors est-ce que Brody est-il un terroriste, bon voilà. Et donc ils expliquent, et donc du coup ça rendait évidemment la lecture de ce document qui est un document professionnel agréable parce que ça se lisait un peu comme un petit roman quoi. C'est-à-dire on dit bon bah alors c'est un terroriste ou pas, il retardait un peu le moment de en expliquant bien que évidemment l'idée c'était que ça reste indécidable au moins jusqu'à la première voire à la deuxième saison.
Il y a une différence entre une Bible américaine et une Bible française?
J'ai pas vraiment lu de Bible française.
En tout cas, dans la manière que tu as de décrire la Bible, non, c'est à peu près la même chose. Ouais, c'est ça, c'est la présentation des personnages, les enjeux. Est-ce qui est du coup très compliqué, parce que quand on commence l'écriture d'un roman, on n'est pas là à devoir en fait identifier quels vont être les grands enjeux qui vont nous parcourir dans l'écriture pendant 300-400 pages. Et c'est là où en fait très vite on peut se dire qu'une adaptation peut être faible, ou en tout cas que le matériau doit être un petit peu musclé, parce que les enjeux doivent être tout de suite dans le pilote. Un pilote, premier épisode, c'est vraiment ce qui inaugure une saison, et ce qui va aussi appeler à hameçonner le spectateur à regarder le deuxième. Il faut forcément que ça se termine par quelque chose un twist, une question. Brody est-il un terroriste? Je me souviens à la fin du pilote sur Homeland, effectivement, on doute parce qu'il fait un geste précis. Ouais, il croise les doigts, je crois, devant la caméra, qui fait un signe d'identification, de ralliement à un groupuscule terroriste.
Voilà, et ça, c'était déjà dans la Bible, c'est-à-dire que c'était donc très anticipé.
Et pourquoi on regarde la suite? C'est parce que finalement, ils croisent les doigts et que c'est là où. Donc, c'est finalement la même chose. Et on peut aussi, dans la Bible, en tout cas, c'est ce que je fais, parce que je me suis aussi inspiré pas mal de Bibles de séries que j'ai aussi lues, c'est de faire un mood board et de mettre des images qui nous inspirent, ensuite on peut, des tableaux, des images de séries.
Faire un joli truc.
Et pour celle de Darling, on a mis par exemple des photos d'une série que je trouve absolument éblouissante, qui est sortie l'année dernière, qui a été repoussée à cause du Covid, qui s'appelle Euphoria, qui est une série... qui est une série sur HBO qui suit une jeune fille qui est une ex-junkie qui a 15 ans. Et c'est une série très, très filmée vraiment comme un film d'auteur qui vient de remporter, je crois d'ailleurs, est-ce que c'est l'Emmy de la meilleure série ou alors celle qu'il a eu pour la meilleure actrice? Qui est l'Emmy de la meilleure série cette année? Je ne sais plus. Mais peu importe. Et c'est, je pense, aussi pour du côté très français. De mettre justement des images de séries américaines, de nouvelles séries, de séries qui essayent d'autre chose, c'est aussi une sorte de il y a toujours cette fascination aussi pour le modèle américain qui quand même, même s'il y avait des séries, moi j'adore les séries anglaises beaucoup plus que les séries américaines, mais elles restent...
Et pourquoi ?
Je préfère les séries anglaises parce que je les trouve beaucoup plus... je les trouve moins paresseuses dans la continuité justement. Et en fait, elles sont rarement continues. Elles s'arrêtent au bout de 2-3 saisons, à part quelques petites exceptions. Et puis, il y a moins d'épisodes, en fait. Généralement, une série anglaise, elle compte 6 épisodes pour une saison. Parfois, c'est 4. C'est rarement au-dessus de 6. À l'origine, quand même, les séries américaines, c'était 20 et 22 épisodes sur des chaînes publiques. Pour les chaînes à péage, les chaînes privées comme HBO, Showtime ou les plateformes actuelles comme Netflix ont réduit le 22 à 12. Et maintenant, ils s'inspirent beaucoup du modèle anglais en faisant parfois 10 épisodes, 8 épisodes, et qu'en fait, ça devient très variable. Comme d'ailleurs la durée d'un épisode. Un épisode qu'on dit dramatique, issu d'un drame, à l'origine, sur une chaîne publique, c'est 45 minutes. Sur une chaîne d'auteur, c'est une heure. Aujourd'hui, on joue un peu sur ces durées-là. Donc, il y a aussi des doubles épisodes de 2 heures qui font chier tout le monde parce que personne n'a envie de commencer une série avec un épisode de. Et là, il y a une nouvelle série qui a été diffusée sur HBO, qui commence à être diffusée depuis ce mois-ci, qui s'appelle The Third Day, avec Jude Law. Et le cinquième épisode, qui a été diffusé ce week-end, dure 12 heures. Il dure 12 heures parce qu'il a été filmé en temps réel. C'est une immersion théâtrale.
Il y a un principe esthétique qui est un peu dur à tenir sur la longueur.
Ah bah là, c'est 12 heures. J'ai commencé à regarder les premiers épisodes, mais je ne sais même pas si je vais continuer parce que je sais qu'il y a cet épisode-là qui m'attend de 12 heures. Bon, ils l'ont fractionné en 2 épisodes, l'un de 6 heures, l'autre de 6 heures. Ça a été fait par des producteurs qui ont fait moi j'ai eu la chance d'assister à New York, une pièce de théâtre qui s'appelle Sleep No More. C'était une sorte de revisite de cette pièce de Shakespeare, Hamlet. Et c'était, en fait, on suivait sur 9 heures des comédiens c'était dans les anciens abattoirs de New York, dans le quartier du Beanpacking. On suivait, donc c'était 3 cycles de 3 heures, on suivait les comédiens, mais vraiment sur un 6000 mètres carrés d'entrepôt. Et on voyait là encore une fois cette envie de déplacer le théâtre vers quelque chose d'autre. Et là encore une fois, en proposant un épisode de 12 heures, ça devient presque du théâtre à l'inverse. C'est ce truc de un truc très, très, très engageant, beaucoup plus que lorsqu'on regarde une série télé. Où en fait, pourquoi on regarde plus de séries qu'on ne le lit, c'est parce qu'on reste quand même très passif. On reste quand même des insectes devant leur ampoule électrique à regarder comme ça de façon.
Sauf claire. Avec Black Mirror qui propose des épisodes participatifs et un concept de participativité.
Alors ils ont testé ça avec un épisode spécial qui n'est pas inclus dans une saison. Ils se sont inspirés justement de l'univers des jeux vidéo comme Heavy Rain par exemple, qui est un jeu merveilleux. Où on doit choisir, on doit faire des choix en fait à chaque grand tournant narratif du jeu, et on comprend très vite que finalement les designers du jeu ont prévu 30 fins alternatives ou en tout cas 30 fins possibles, et que finalement les choix qu'on fait vont influencer le cours du jeu. Donc Black Mirror l'a fait effectivement, mais c'est pas encore extrêmement bien.
Pour quelle raison ?
Les choix sont très manichéens. Soit tu acceptes de parler à la personne, soit tu lui claques la porte à la gueule. Bon, c'est un truc un peu voilà. C'est Kimmy Schmidt, aussi une série de Tina Fey que j'aime beaucoup, qui est une grande showrunner qui a fait 30 Rock, qui est une des principales scénaristes du Saturday Night Live. Elle l'a fait aussi pour sa sitcom Kimmy Schmidt. Parce qu'encore une fois, on a envie d'être. Je pense qu'il y a aussi cette influence de la réalité virtuelle et de cette immersion-là qui tente beaucoup les showrunners, et ils ont envie évidemment de déplacer, de re-questionner aussi leur propre, ce propre concept, ce propre dispositif de la sérialité et de l'écriture feuilletonnante, et que finalement en immergeant le spectateur à faire lui-même des choix. Donc là, c'est avec la télécommande, on appuie sur telle touche pour dire là, tu t'en vas, là, tu décides de rester, là, tu t'engueules, là, tu décides de lui pardonner. Finalement, c'est encore plus engageant et encore plus addictif, puisqu'on voilà, ça revient à. J'ai participé à une enquête pour Lire qui sort le mois prochain sur justement l'influence des séries en littérature et notamment sur les ados. Et la journaliste était étonnée parce qu'elle avait questionné beaucoup d'ados pour cette enquête. Et souvent, les ados, pour parler de séries, expliquaient que pour eux, ils adoraient les séries parce que c'était très inclusif. Et donc, elle ne comprenait pas pourquoi ils utilisaient toujours ce terme d'inclusion. Finalement, c'est un autre terme pour dire on est dépendant et on est addict en fait à ces univers-là. On est tellement attaché, l'impression de vivre avec soit nos familles, soit nos
positions de binge watching aussi.
Sur le binge, voilà, c'est ça. Et ça, c'est vraiment les plateformes comme Netflix qui ont créé ce binge watching, puisqu'à l'origine, une série, c'est un épisode diffusé par semaine et on doit attendre la semaine suivante pour regarder. Et c'est très frustrant parce qu'effectivement, ça. Ça crée une déconnexion, et le générique permettait justement cette reconnexion-là. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on a effectivement 10 épisodes livrés en une fois sur Netflix, on va le regarder en un week-end et on n'aura fait que ça, quoi. Donc c'est très chronophage.
Ouais. Je vous ai entendu employer le terme de showrunner. Est-ce que vous pourriez expliquer tous les métiers qui tournent autour de l'écriture sérielle
La principale différence avec le cinéma, c'est ça, c'est ce poste de showrunner qui est en gros un peu le chef des scénaristes. C'est-à-dire, c'est pas lui qui écrit tout de A à Z, mais c'est le chef, quoi. C'est-à-dire qu'il a un pool de scénaristes, il leur confie différents arcs narratifs, c'est-à-dire, j'en sais rien, hein, certains scénaristes peuvent se voir attribuer des personnages, je crois, et ensuite, ils proposent, ils disent, lui, ce serait bien qu'il lui arrive ça, qu'il fasse ça, etc. Et lui, valide, en fait, dit oui, d'accord, mais non, ça ne va pas avec son personnage, bon, refais-moi ça, etc. Bon, voilà, c'est le chef, en gros. Et dans une série, c'est un poste plus décisif que réalisateur, en fait. Les réalisateurs, d'ailleurs, à l'intérieur d'une saison, peuvent tourner. Par exemple, je me souviens à House of Cards, c'était David Fincher, le réalisateur de Fight Club, qui était showrunner, et ça veut dire que concrètement, je crois, il a tourné 2-3 épisodes, et après, juste le premier d'ailleurs, voilà. Et après, c'est plus lui qui tournait, et c'est, mais simplement, il restait aux manettes et il validait. Je sais que, en général, c'est-à-dire là, c'est les cas où des réalisateurs, des réalisateurs de cinéma deviennent. Il y a eu Scorsese aussi avec Vinyl. Et alors, mes amis, enfin les gens avec qui j'en discute disent oui, mais on voit hein, quand même que moi je vois jamais. On me dit c'est pas Fincher qui a fait le 4e épisode, vous n'avez rien vu. Bon, certains prétendent, ont l'œil suffisant ou prétendent avoir l'œil suffisant pour faire la différence. Mais Vinyl, par exemple, je ne sais pas si tu l'as vu. Bon, là, c'est Scorsese qui est donc showrunner et qui réalise le premier épisode, qui est un épisode double. Et là, on ne s'ennuie pas. Là, moi, j'ai eu l'impression de voir un film de Scorsese. J'ai eu l'impression de voir Le Loup de Wall Street dans le milieu de l'industrie du disque. Et c'était éblouissant. Et c'est vrai que là aussi, bon, les séries sont en train de prendre le pas sur le cinéma. Et donc, justement, et le coup de génie des séries, ça a été de tout miser sur le scénario. Et c'est vrai que bon, on a eu des constructions narratives complètement, folles, d'une créativité folle, mais parfois aussi avec une réalisation parfois un peu paresseuse, classique, un peu plan-plan. Bon, et c'est vrai que de temps en temps, voilà, quand Scorsese déboule là-dedans, là, on se souvient ce que c'est que la mise en scène, c'est important quand même.
On pense aussi à Boardwalk Empire avec Scorsese. Qu'il a produit
J'avais pas vu, ouais.
Oui,
c'est un travail prodigieux sur le décor.
Il avait aussi réalisé le premier, qui finalement c'est presque une mise en bouche et c'est aussi un argument commercial de dire c'est Scorsese. Enfin, Scorsese, il y a passé un mois, il a fait son petit tournage et après il est passé à autre chose parce qu'il est très occupé, monsieur. Voilà. C'est toujours une façon de d'appâter aussi et d'hameçonner un peu le spectateur. Et je crois que quasiment dans tous les grands noms. De réalisation américaine, je crois qu'ils ont tous fait signer un pilote ou son showrunner un peu honorifique d'une série. Donc il y a Scorsese, il y a Fincher, le réalisateur d'Erin Brockovich, comme il s'appelle, Steven Soderbergh, qui a fait Girlfriend Experience, qui est vachement bien.
Qui a fait aussi la série sur le chirurgien cocaïnomane.
Oui, c'est vrai.
J'ai oublié le titre.
J'ai arrêté. Oui, c'est vrai. Il y en a tellement qu'on les oublie, c'est terrible. Mais voilà, c'est presque de la. Et c'est d'ailleurs pareil pour le casting. À l'origine, vraiment, c'est ce que tu disais, les séries, c'était vraiment cette sous-culture, c'était pas l'art légitime du cinéma. Et donc les acteurs qui étaient un petit peu assignés aux séries, c'était un petit peu considérés comme des acteurs de seconde zone, alors qu'aujourd'hui, en fait, ils se battent tous pour être. Big Little Lies, on est quand même vraiment un exemple où il y a quand même Meryl Streep, Reese Witherspoon, Laura Dern.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a quand même un problème pour les acteurs vraiment de classe A, comme ils disent à Hollywood. Si vous engagez dans une série, ça veut dire que vous êtes plombé pour les 2-3 ans à venir, quoi.
Que c'est une nouvelle façon de façonner.
Alors voilà, oui. Ou alors, ils peuvent faire des. Par exemple, dans la dernière, les dernières saisons de Viking, il y a comment il s'appelle le mec de Joue-la comme Beckham, Jonathan Rhys-Meyer. Il fait le méchant pendant une saison. Bon, voilà. Mais il n'est pas assigné à. Voilà, on en est à la saison 8 ou 10 de Viking. Ouais. Là, leur carrière, c'est-à-dire DiCaprio, il peut pas faire ça.
Sinon, après la carrière de Rhys Meyers, je pense qu'elle est pas.
Ouais, mais voilà. Mais en fait, c'est souvent.
Pendant 7 ans, The Tudors sur Showtime.
Oui, alors c'est vrai.
Je pense que c'est ça qui l'a enfermé.
Bien sûr. C'est vrai. Mais tu vois, les noms que tu as dit, c'est en effet des acteurs un peu en perte de vitesse qui ont envie de se relancer. Ouais. Tu vois, Laura Dern,
Laura Dern, maintenant, elle devient. Elle est partout quand même. Ou alors les grands noms effectivement s'engagent que sur une saison, sur quelques épisodes, sur un arc. Meryl Streep a accepté de jouer dans Big Little Lies, que c'était une mini-série. Et généralement, en fait, c'est des mini-séries. Il n'y a pas cette idée de on va en faire 100 épisodes, on va en faire 5 saisons.
Parce que Kiefer Sutherland, 10 saisons de 24 heures avec 24 épisodes par saison.
Ouais, là, tu peux rien faire d'autre. Ouais. Ça t'identifie. Tu n'es plus Kiefer Sutherland, tu es Jack.
Jack Bauer. C'est le syndrome James Bond. C'est très difficile ensuite de sortir de James Bond. Ouais.
Et quand vous dites que la série prend le pas sur le cinéma, je ne sais pas trop, parce que j'ai l'impression que la frontière devient de plus en plus floue, parce que ce sont des scénaristes de cinéma qui travaillent pour les séries, parce que, vous l'avez dit, il y a des réalisateurs et des acteurs de cinéma qui travaillent pour les séries, et il y a parfois des séries qui sont de fausses séries, qui sont en réalité des longs métrages qu'on a découpés en épisodes un peu artificiellement, pour arriver à excéder la durée des 2 heures, voire des 2h30 pour un film de long métrage qui serait distribué en salle.
Ouais, c'est vrai, c'est-à-dire que la série s'approprie de plus en plus les qualités et le prestige du cinéma, mais en plus avec cette histoire de crise sanitaire, ça donne encore plus un avantage aux séries qu'on regarde chez soi devant la télé par rapport au cinéma. Là, le cinéma, moi j'ai vu là que Tenet, je croyais que j'avais l'impression que c'était un succès. En fait, même donc Christopher Nolan, qui sort une espèce de James Bond psychédélique, donc a priori tout pour que ce soit un énorme carton, bah en fait bof quoi. Enfin là ils sont pas rentrés dans leurs frais. Donc le cinéma, bon là, la conjoncture fait qu'en plus le cinéma perd encore plus de terrain sur les séries là.
Alors c'est les séries qui accaparent ça effectivement. Je pense que c'est l'endroit des séries qui finalement c'est les plateformes qui exercent aujourd'hui un monopole. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de films aussi distribués immédiatement sur Netflix. Et d'ailleurs ça crée toujours beaucoup de polémiques, notamment dans les festivals ou pour les cérémonies
Festival
de prix.
De Cannes, oui.
Comme Roma de Cuaron ou le dernier Scorsese qui a été ou le Fincher qui sort en décembre et c'est directement sur Netflix. Et donc là ça pose effectivement la question de l'endroit, de la légitimité de la plateforme ou de la salle de cinéma. C'est un peu effectivement un film qui sort à la fois au cinéma comme le film français Mignonne qui est sorti en septembre, qui a créé une large polémique parce qu'il était sur Netflix. Pas parce qu'il était sur Netflix, mais parce que Netflix l'a marketé, l'a brandé avec quatre petites filles habillées de façon très vulgaire, alors que c'est finalement pas le propos du bouquin, du film. Alors qu'au cinéma, l'affiche est beaucoup plus esthétisante, beaucoup plus film d'auteur, qui en plus est un film d'auteur. Donc là, on voit finalement deux stratégies commerciales radicalement différentes. Et je pense qu'effectivement, un film qui est à la fois sur Netflix et au cinéma, ben, par paresse, parce qu'il y a cette crise sanitaire aussi, mais aussi parce qu'on est tous un petit peu paresseux, on va d'abord le regarder sur Netflix, qu'on paye 15€ par mois et pas payer 10€ notre billet cinéma, ce qui est terrible.
C'est la même problématique que Amazon avec les libraires. Et donc, comme Amazon est dans tous les mauvais coups, Amazon est aussi maintenant, enfin disons après... les concurrences, enfin, fait aussi ses séries et est une plateforme aussi au même titre que Netflix.
Est-ce que vous pourriez évoquer votre place à toutes les phases de la production et de la réalisation de la série? Je ne sais pas si elle va s'appeler Civilisation, si elle va porter un autre titre.
Alors, disons là, j'ai contractuellement, c'est pas clair. Non, disons qu'a priori, je vais avoir un rôle de co-scénariste. Je ne peux pas prétendre à être showrunner justement pour une série qui va coûter des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Il faut quelqu'un d'expérimenté, c'est un métier, moi c'est pas mon métier, donc je serai associé. Ils me promettent vaguement des titres qui sont un peu abstraits comme directeur artistique ou producteur exécutif.
Ce qui en fait consiste en quoi exactement?
Producteur exécutif, ça veut pas dire grand chose en fait. Moi je croyais qu'il fallait disons, quand vous voyez, ça peut avoir des significations précises, mais il y a une acception assez large et un peu fourre-tout. Donc, directeur artistique, c'est une façon de me dire que j'aurai un œil, je pourrais superviser sur, sachant que le principe avec les Américains, c'est que de toute façon, ils veulent le contrôle total. Et que donc, si j'ai mon mot à dire, ce sera vraiment une gracieuseté de leur part, si vous voulez, mais que la logique des Américains, c'est très simple, c'est on paye, on achète, donc on fait ce qu'on veut, quoi. A priori, on m'a juré que je serais partie intégrante de ce qu'ils appellent la writing room, donc voilà, je ferai partie du pool de scénaristes avec un statut honorifique un peu particulier, puisque bon, j'ai quand même écrit le bouquin qui est à la source du truc. Mais je pourrais pas dans les deux sens du terme, je pourrais pas espérer plus parce que il me le donnerait pas et puis parce que de toute façon j'en serais pas capable de toute façon. Donc voilà, donc là on cherche un showrunner qui va, j'espère, bien traiter mon livre, sachant que oui, de toute façon on sera dans la dépossession, dans l'appropriation par quelqu'un d'autre. Mais j'accepte. Enfin sur le papier j'accepte ce principe, mais de toute façon. Oui, par exemple, mes livres précédents avaient été déjà. Bon, il y a eu une adaptation au ciné, il y a eu des adaptations au théâtre. Et j'aime bien le principe de OK, bon, ben voilà, je vous donne mon truc comme matériau, vous en faites quelque chose, ce que vous voulez. Et à l'arrivée, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Mais je trouve ça toujours assez touchant de voir. C'est comme là, les jeunes qui ont fait des tableaux à partir de mon. De mon livre, là, qui sont affichés dans tout le hall. Certains tableaux, hier, je discutais avec des gens du festival qui me disaient « Ah, je ne voyais pas ça comme ça en lisant ton livre, etc. » Moi non plus, je ne voyais pas ça comme ça, mais ce n'est pas grave. C'est-à-dire, j'aime bien le principe de l'adaptation, Ensuite, on est, voilà, je peux être déçu, je suis à, mais j'aime bien le principe de, comment dire, de la création au carré, si vous voulez. C'est-à-dire que à partir de ma création, il y a des gens qui superposent leur propre vision à la mienne, et ça donne quelque chose de tout à fait original et de tout à fait émouvant. Bon, en plus, il se trouve que là, les images, je les trouve. Je les trouve très belles, mais c'est vrai qu'il y a des personnages. Bah là, il y a le personnage récurrent d'Igenamota. Là, c'est vrai. Bon, voilà. Là. Hier, on m'a dit, ah bah, je le voyais pas comme ça. Moi non plus. Mais de toute façon, il est représenté de multiples façons d'un tableau à l'autre. Bref, en tout cas, et c'est exactement comme pour vos jeunes qu'on fait le court-métrage tiré d'HHHH que j'ai découvert hier, puisque la dernière fois, je sais pas comment ça s'était goupillé, mais j'avais pas pu être là au moment de la projection, et donc. Et c'est leur créativité ajoutée à la mienne. Le résultat, en plus, je trouve que c'est, ils ont fait quelque chose de très original, de transposer mon histoire de Deuxième Guerre mondiale dans un décor d'aujourd'hui, mais pas totalement. C'est-à-dire que ce que j'ai vu hier, ça m'a fait penser aussi à une espèce d'uchronie, dystopie. On ne sait pas, c'est les premières images, on dirait, alors que c'était il y a 3 ans, on a l'impression que c'est les manifs des gilets jaunes d'aujourd'hui. Donc en plus, c'est très actuel, très visionnaire. Avec des éléments de décor, les vêtements, les armes factices qui sont, eux, très référencés Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est-à-dire que c'est ni dans le passé, ni dans le présent, c'est une espèce d'entre-deux stylisé. Et j'ai trouvé que vraiment le résultat était magnifique. Et en plus, j'ai beaucoup aimé à la fin, c'est il donne la clé, c'était pas forcément nécessaire, mais il donne la clé de cette espèce d'entre-deux entre passé et présent. À la fin, il cite la phrase de Karl Marx, qui est une phrase géniale: celui qui ignore le passé est condamné à le revivre. Et donc voilà, et ça, moi c'était pas le propos de mon, enfin, peut-être si inconsciemment, mais enfin, en tout cas, ils ont rajouté quelque chose et donc ça, j'aime ce principe. Mais la différence, c'est que moi, je découvre juste le résultat final, ça me plaît ou ça me plaît pas. Là, ça risque d'être quand même plus douloureux parce que je vais être associé au truc. Et quand je vais dire, non mais les gars, vous pouvez pas me supprimer les Vikings, et qu'ils vont me dire, bah si on peut, regarde. Là, je vais être blême et je vais avoir envie de déchirer mon contrat. Et puis bon, ensuite, je vais quand même prendre le chèque, quoi.
Et au tournage et au montage, vous allez être consultant ?
Alors, pendant le tournage, est-ce que je serai consultant ? Bah, j'espère, ouais. J'espère, mais en même temps, je suis en train aussi de calculer que des consultants, il va en falloir beaucoup plus et des bien meilleurs que moi. Parce qu'en fait, le consultant, c'est le mec qui va dire non, mais là, les sandales des Incas, ça va pas, en fait. Et ça, moi, je suis pas capable de le faire, en fait. Je me suis beaucoup documenté sur les Incas, mais pas assez sur les boutons de chemise de Charles Quint. Alors, il y a les tableaux, mais c'est-à-dire qu'il va falloir des... Il va en falloir des consultants, ouais, et des bien meilleurs que moi. Ouais.
Umberto Eco disait que l'adaptation, ce n'était pas un mot à mot, mais un monde à monde. Si on parle de l'adaptation, donc de Civilisation et des Indifférents, quelle serait la substantifique moelle qu'il faudrait vraiment retrouver à l'écran ? S'il fallait tout supprimer, quel est le noyau, en fait, de Civilisation, et quel est le noyau des Indifférents ?
Moi, je pense que, enfin, disons, puisque quand même le trait d'union entre là, cette série à venir, et puis le livre, il me semble que le trait d'union, c'est quand même le cinéma, puisque j'ai quand même une conception assez visuelle de l'écriture de mes romans. Et spontanément, là, je vous dis ça, peut-être demain, je vous répondrai autre chose, mais je vous dirais peut-être l'esprit du western. Moi, tout mon...
On retrouve d'ailleurs dans la troisième partie, quand ils sont 200 à essayer de conquérir l'Empire. Là.
Voilà, bah ouais, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la scène, le noyau de mon livre, c'est la scène de capture de Charles Quint par Atahualpa, où Atahualpa tend un guet-apens à Charles Quint. Ils sont 200 sur la place de Salamanque, ils attendent l'armée de Charles Quint qui arrive. Charles Quint arrive avec toute sa suite, ils sont 3000, 5000... Et Atahualpa va le capturer en lui tendant une embuscade. Et ça, c'est vraiment la scène miroir, la scène inversée de la réalité historique, puisque c'est exactement comme ça qu'a procédé Pizarro dans la réalité pour capturer Atahualpa. Sauf que c'était au Pérou, ce n'était pas à Salamanque. Et cette scène-là, quand je l'ai découverte, je pense que
c'est cette scène-là qui m'a... Donc là, mon point de bascule à moi qui m'a donné l'idée d'écrire le livre, enfin, c'est pas ça qui m'a donné l'idée, mais en tout cas, le premier germe, c'est quand j'ai lu, je me souviens, c'était dans une exposition au Quai Branly à Paris, j'ai lu cette histoire que je connaissais pas, et tout de suite, j'ai vu une scène de western de Sergio Leone avec la musique d'Ennio Morricone qui a commencé à tourner dans ma tête. Et donc voilà, et donc cet esprit-là qui a préfiguré aux scènes les plus, enfin voilà, qui a guidé les scènes les plus importantes de mon livre, j'aimerais bien qu'il se retrouve dans la série. J'aimerais bien qu'il y ait du Sergio Leone et du Ennio Morricone qui sont morts, hein, donc ce ne sera pas eux. Mais enfin, cet esprit-là, cet esprit western, j'aimerais bien qu'il se retrouve dans la série.
Pour les indifférents, c'est vrai que je pense que ce qui est le noyau pour les producteurs n'est pas du tout le même noyau à garder pour l'auteur. Donc évidemment, pour eux, c'est l'intrigue, c'est ce qui est le plus efficace, ce qui est le plus percutant, ce qui est le plus créateur de suspense. Après, oui, bien sûr qu'on aurait envie de retrouver l'ambiance, l'esprit, mais c'est tellement subjectif, ça nous appartient tellement que c'est aussi très compliqué d'en retrouver des codes visuels. Moi, j'ai accepté l'idée que ça pouvait être totalement autre chose, totalement différent. Je suis content parce que je suis associé en tant que scénariste. Mais d'ailleurs, ça a été très compliqué d'être... ils m'ont proposé ça tout en me disant que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que disait aussi Laurent. Généralement, les producteurs n'ont pas envie que les auteurs des livres adaptés fassent partie de la machine parce que forcément, ils vont
être chiants.
Ils vont être chiants. C'est pas exactement ça. Moi, la sandale de l'Inca, j'ai pensé un peu plus bas. C'est toujours un peu plus. Voilà, ça crée forcément, ça apportera des problèmes.
Ça peut que mal se passer.
Que
en fait.
Débats, voilà. Comme de voilà. Et puis je comprends aussi l'idée que écrire un livre, c'est une expérience qui est quand même très solitaire. On est seul. Écrire une série, c'est une œuvre tellement collectif, tellement pluriel, ça n'a absolument rien à voir, donc ça peut pas du tout être le même travail, la même mécanique, le même cheminement, pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que quand bien même il voulait que je sois associé en tant que scénariste, il ne voulait pas que ça fasse partie de la clause du contrat de l'achat, en fait, l'option d'adaptation. Oui, tu seras scénariste, mais ça, ce qui veut dire, puisqu'il n'y a pas la clause, tu peux jarter en fait, à tout moment s'il y a des débats. Et ça, il faut le savoir, c'est quand même un milieu qui est quand même très compliqué, même pour des scénaristes dont c'est le métier de contribuer à des séries. J'en connais plusieurs en France qui peuvent en fait du jour au lendemain être remerciés, ne pas continuer leur boulot sur une saison d'Engrenage ou une série policière sur je ne sais quelle chaîne. C'est un métier qui est quand même très précaire, qui est très bancal et ça donne pas très très envie. Alors c'est très chouette et c'est très orgueilleux de se dire ah, super, mon bouquin fait l'objet d'une attention collective, mais en même temps d'être autant. Je pense que producteur exécutif, pour le coup, c'est pas mal parce que du coup, ça veut dire que tu as le droit d'être sur le tournage, tu as le droit d'être là, tu vas pas être remercié par les bodyguards, tu peux avoir ta petite caravane, mais je pense que c'est très bien aussi qu'ils en fassent autre chose puisque c'est pas le même métier, c'est pas la même vision et si c'est raté, tant pis.
La différence essentielle avec écrivain, c'est qu'écrire un livre, ça coûte rien, en fait. Et c'est vrai que, voilà. Et donc, dans le cinéma, quand il y a des sommes, vu les sommes engagées, ils sont pas, c'est pas des sentimentaux et ils peuvent pas se permettre de l'être, en fait. Il y a trop de fric en jeu. Alors que... alors, ça a des avantages et des inconvénients, parce que quand vous voyez les rentrées littéraires, vous voyez bien qu'il y a des livres quand même qui sont dispensables, qui n'auraient pas dû en fait, enfin, c'est-à-dire dans une logique rationnelle, qui n'auraient pas dû sortir, mais en fait, les même si c'est par ailleurs c'est très dur de se faire publier quand on est personne hein, dans le monde, enfin quand on n'est pas connu dans le monde de l'édition, mais un vieil auteur maison, un peu en perte de vitesse, qui a eu des succès jadis, et puis là qui commet un truc tout à fait dispensable. L'éditeur, il va lui éditer sans problème, il va le sortir, il va essayer de lui avoir un peu de pub, etc. Parce que ça coûte rien, ça coûte quelques milliers d'euros de fabrication et pas des dizaines, voire des centaines de millions, quoi. Donc forcément, ils n'ont pas d'état d'âme, quoi, les mecs.
Il y a un cas totalement particulier dans l'histoire de la production des séries, c'est Twin Peaks. Ouais. Par sa durée, par le, ouais. Voilà, par la liberté dont ouais. David Lynch a joui dans le... Et d'ailleurs, la série Twin Peaks est beaucoup plus, je trouve, créative, inventive, avant-gardiste que le film. J'avais une question à vous poser, Julien Dufray-Delamy, sur la spécificité de l'écriture sérielle quand il s'agit d'adapter un texte sous la forme de podcast sonore.
Là, je suis en plein dedans, donc je ne sais pas ce qui m'attend concrètement. Je pense que ça reste quand même toujours l'écriture d'un scénario. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir dans les retours des producteurs qu'on me fait. Donc c'est un livre qui, en plus, est très visuel. Le livre s'appelle Joli Joli Monstre. Il raconte les trois décennies de la culture drag queen et vogueur à New York. À New York, en plus, dans les années 80, en plus. Donc c'est quand même compliqué pour un podcast français, d'un auteur français. Voilà. Je pense qu'ils ont été intéressés par le projet parce qu'effectivement, qui dit drag queen, dit scène, dit théâtre, dit musique, dit on entend des choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour eux, les enjeux se déplacent un peu aussi. Qu'en fait, ça peut être aussi très, très... ce qui peut être aussi musical, c'est aussi les coulisses d'un cabaret, les engueulades entre les clients, aussi ce que font les drags, ce que faisaient les drags à New York, cette distribution de tracts sur le trottoir après avoir été emperruqué, après s'être maquillé pendant des heures. C'est là où effectivement moi j'ai pas conscience en tant que quand j'écris le livre et quand je suis consulté pour cette création de podcast, j'ai pas conscience effectivement que c'est pour eux des éléments à prendre en compte. Mais évidemment, comme c'est un feuilleton audio, ça doit être au cœur de leur pensée, au cœur de leur travail. Mais là, c'est à eux de m'expliquer et c'est moi qui dois finalement me former et apprendre. Après, je suis pas seul. Hein. Il y a une scénariste de cinéma qui est là aussi, qui a sorti un film qui s'appelle Jumbo récemment sur une jeune femme qui tombe amoureuse d'un manège, dont j'ai beaucoup aimé l'univers. Mais c'est vrai que là, c'est apprendre autre chose, mais en même temps, écrire un livre, c'est toujours aussi une forme de challenge différent. On n'a jamais envie de faire la même chose. Laurent, c'est la même chose quand il parle de Barthes et ensuite des Incas, c'est quand même un virage à 360. Quand je parle de drag queen et ensuite que je parle d'Instagram et de la génération AZ, c'est aussi très différent. Et en même temps, voilà, accepter l'adaptation, accepter de travailler avec d'autres gens, nous, ça nous nourrit aussi autrement parce que sinon, on était quand même très, très seul et on travaille quand même de façon très solitaire. Donc c'est toujours enrichissant et, voilà, et on prend ce qu'il y a à prendre. Voilà.
Je ne sais pas si la salle a des questions.
Et la dernière série que j'ai vue, j'ai